Maison du Podcast présente.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salut nos petits aventuriers et bienvenue dans Wild, le podcast animalier. Je m'appelle Ambre et je suis reporter animalier. J'adore parcourir la planète pour aller rencontrer toutes sortes d'animaux. Certains au bout du monde, comme des lions, des orques, des girafes, des chimpanzés. Certains juste à côté de chez toi, comme les chauves-souris, les papillons ou les crapauds. Tous les 15 jours, je t'emmène sur les traces d'un nouvel animal sauvage avec mon ami, le bizarre professeur Sapiens. Tu es prêt? Mets tes baskets et pars avec nous pour une nouvelle aventure.
Professeur, mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme?
Je répare ma machine à voyager dans le temps, ma petite.
Ah bon? Elle était cassée?
Oui. Elle en faisait qu'à sa tête. Une vraie rebelle. La semaine dernière, elle m'a coincé à l'époque des dinosaures en pleine attaque de Tyrannosaurus Rex. J'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Un dernier coup de vis par-ci, par-là. Et c'est bon, elle est réparée. Monte vite, ma grande, en route pour l'aventure!
Au par où, professeur?
Je veux rendre visite aux animaux préhistoriques, les animaux disparus et les autres. Allez, c'est parti!
Préhistoire? Mais il y a combien de temps?
30 000 ans! Accroche-toi bien!
Professeur, mais où sommes-nous? Waouh, qu'est-ce que c'est que tous ces animaux?
Nous sommes à Marseille, il y a 30 000 ans, devant la grotte Cosquer. Une grotte où les hommes préhistoriques ont laissé plein de dessins d'animaux d'ailleurs.
Incroyable! Oh, regardez là-bas, il y a quelqu'un.
Ça, c'est mon ami Gabriel. Il est le spécialiste de la préhistoire. Je l'ai laissé là lors de mon dernier voyage. Il voulait passer du temps avec les animaux. Va le voir si tu veux et pose-lui tes questions. Moi, je vais gratouiller quelques pingouins géants en attendant.
Formidable! Attendez-moi là, professeur! Et surtout, soyez sage! Gabriel, on se retrouve devant cette fameuse grotte Cosquer. Et là, on croise des animaux que j'avais moi déjà jamais vus.
On va pouvoir voir un bison des steppes, qui est un animal gigantesque, et un mégacéros. Un mégacéros, très peu connu. Un gigantesque cervidé avec une ramure sur la tête beaucoup plus grand qu'un élan. Et très très impressionnant, qui a impressionné les artistes aussi.
Oui, alors là par exemple, on voit passer un pingouin, mais c'est pas un pingouin comme ceux qu'on connaît.
Ah non, c'est pas tout à fait les pingouins de Madagascar, c'est les pingouins de Marseille en fait. Ce sont des qu'on appelle des grands pingouins, donc des animaux assez impressionnants. Très très bons nageurs, très mauvais marcheurs sur terre. Sur terre, ils valent rien du tout, par contre sous l'eau, ils sont excellents. Ils nagent très profondément, très très vite, ils vont chasser des poissons, des petits poulpes. Et c'est des animaux qui, aujourd'hui, malheureusement, n'existent plus, mais qui étaient présents à Marseille il y a 30 000 ans et qu'on a dessinés sur les parois de la grotte.
Oui, alors, ils ont des toutes petites ailes, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pour ça qu'ils savent pas voler.
Voilà, c'est des animaux qui savent pas voler. C'est des oiseaux qui savent pas voler. Puis, par contre, ils nagent très, très bien. Et donc, leurs ailes se sont atrophiées, se sont réduites, en fait, parce qu'ils n'en avaient plus besoin pour voler. Ils en ont besoin pour se diriger sous l'eau.
Oui,
un peu comme des nageoires.
Donc, ils ressemblent un peu. Et d'ailleurs, on avait une expression, hein, pour dire, on pouvait les attraper comme des cailloux.
Oui, c'est ça. On pouvait les chasser comme des cailloux. C'est des animaux qui sont très, très maladroits sur terre. Donc, les gens qui les chassés jusqu'au 19e siècle, jusqu'en 1850, ils les ramassaient comme s'ils prenaient un caillou par terre. Donc, absolument pas effrayés. Ça, alors, c'est malheureusement ce qui les amenait à leur perte. Les préhistoriques l'ont chassé aussi. Hein. Il y a 30 000 ans, on mangeait du pingouin déjà, même plus.
Donc là, celui qui est là-bas, je peux m'approcher, je peux le caresser. A priori, il ne va pas bouger.
Et il bougera pas. Il bougera pas. Il y en aura trois. Là, ils vont vous regarder. Ils vont être très contents de vous voir arriver. Non, ils bougeront pas.
Et alors, là-bas, j'ai l'impression de voir un félin. Mais on n'est pas dans la jungle. Pourtant, ici, on n'est pas en Afrique.
Alors non, on n'est pas en Afrique, on n'est pas en Asie, on est en Europe. Et à l'époque préhistorique, on avait des lions et des panthères qui vivaient chez nous, ce qu'on appelle les lions des cavernes. Alors c'est un gigantesque félin, c'est le plus grand des prédateurs qui a existé. Vous imaginez plus gros qu'un lion d'Afrique, mais sans la crinière. Donc un animal très puissant, terrifiant, qui a inspiré les artistes. Et on a parfois utilisé leurs dents pour faire des colliers, on a utilisé leur peau pour se vêtir. Et là, vous pouvez voir un jeune, comme on l'a vu sur les parois de la grotte.
Ils sont impressionnants parce qu'ils sont plus gros que les lions qu'on connaît aujourd'hui, un peu plus gros.
Un peu plus gros que les lions qu'on connaît aujourd'hui. Il faut imaginer que les plus gros qu'on ait trouvés pouvaient faire quand même jusqu'à 1m30 au niveau des épaules.
Ah oui.
C'est assez impressionnant.
Oui, donc la taille d'un enfant de 8 ans à peu près. Quoi.
À peu près, voilà. Un poil plus bruyant qu'un enfant de 8 ans.
Beaucoup de chevaux aussi, il y a plein de chevaux ici.
Alors le cheval, c'est l'animal que les hommes et les femmes de la préhistoire ont adoré dessiner. Il n'y a pas une grotte ornée où vous n'allez pas voir un cheval quasiment. Et ce cheval, alors c'est pas le même cheval qu'aujourd'hui, ce sont des chevaux sauvages. On ne sait pas précisément quel est leur lien avec nos chevaux domestiques d'aujourd'hui. Ce n'est pas des chevaux de trait, ce n'est pas des chevaux de course. C'est des petits chevaux avec une crinière comme les ânes, comme les mules. Très très robustes, avec un gros ventre et des couleurs assez particulières. Hein, souvent un peu brun, parfois un peu noir. Et c'est des très très beaux chevaux. Et c'est vraiment un sujet qui les a inspirés. Ils adorent les chevaux à la préhistoire. Ils vont en dessiner plein, ils vont en peindre plein. Parfois, ils les chassent, parfois, ils les mangent. Ils ne montent pas dessus. Ils ne s'en servent pas. C'est pas un animal domestique. À l'époque, il n'y a pas d'animaux domestiqués, hormis peut-être le chien. Mais non, le cheval, c'est vraiment un animal très, très intéressant.
Oui, donc là, il y en a plein. Et en fait, ils sont là, ils sont nombreux. Quoi.
Ah, ils sont nombreux. Des grands troupeaux de chevaux, vous en avez des centaines, des milliers qui se déplacent comme ça, qui vont courir, qui vont être en cavalcade, qui vont se déplacer. Au milieu de grands troupeaux de bisons, de grands troupeaux d'aurochs. L'auroch, c'est le taureau préhistorique. Il faut imaginer un gros taureau gigantesque qui peut faire 1m80 aux épaules avec des grandes cornes. Et c'est pareil, tous ces animaux-là, ils vont se déplacer dans les grandes plaines qui sont aujourd'hui recouvertes par l'eau et qui vont être chassés, parfois dessinés par les humains. C'est vraiment, on est sur un rapport à l'animal qui est très particulier à l'époque.
Ouais. Donc tu veux dire que là où on est précisément, là où il y a la mer aujourd'hui, et ben là c'était une grande plaine avant.
C'était une grande plaine, alors c'est difficile à imaginer, il n'y avait pas d'eau, l'eau était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Ça c'est à cause d'une glaciation, il y avait des gros glaciers qui couvraient le nord du monde. Et du coup l'eau était plus bas, et ça leur laissait des grands territoires où ils pouvaient observer les chevaux, où ils pouvaient observer aussi les phoques au bord de la mer et les pingouins hein, évidemment. Et donc c'est un paysage qui est relativement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui.
Professeur, enfin, lâchez ce dauphin!
Ouvre mieux tes mirettes, ma petite. C'est pas un dauphin, c'est un phoque.
Un phoque, ici, en Méditerranée?
Ça fait pas longtemps qu'il n'y a plus de phoques à Marseille. On s'imagine que ça fait très longtemps. Alors, les derniers phoques à Marseille ont été observés en 1960, dans les années 1960. Ce phoque-là, c'est le phoque moine de Méditerranée. C'est un phoque très particulier, qui est très très beau, qu'on peut encore voir un peu dans les îles grecques aujourd'hui, et qui, il y a 30 000 ans, était présent au large de Marseille. On pouvait le voir, on pouvait aussi le chasser et le manger. Donc c'est un peu triste aujourd'hui, il ne faut pas le faire, chasser les phoques, mais à l'époque préhistorique, on avait ça. Oui. Il fallait en profiter, oui. Raisonnablement.
Professeur, mais qu'est-ce que vous faites sur cette chèvre géante?
C'est pas une chèvre géante, ma petite, c'est un bouquetin.
Ah bon? Un bouquetin? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il y a même des bouquetins à la préhistoire?
Oui, il y avait les bouquetins. Alors le bouquetin, c'est une grosse chèvre qui vit dans les montagnes aujourd'hui. Il faut s'imaginer avec des très grandes cornes qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre de long avec des anneaux. Le bouquetin qui fréquentait le massif des Calanques, qu'on pouvait voir, aujourd'hui on va le trouver plutôt dans les Alpes. Alors son cousin, le bouquetin des Pyrénées aussi qui est présent. Le bouquetin des Alpes fréquentait le massif des Calanques. Et à côté du bouquetin, on pouvait voir des chamois. C'est pareil, le chamois, on en trouvait dans le massif des Calanques. On pourrait en trouver très très bas. Aujourd'hui, on imagine que c'est des animaux qui vont vivre en haute altitude. Et en fait, c'est des animaux qui aiment les milieux rocheux. Donc le massif des Calanques, c'est génial. Et ils peuvent descendre jusqu'à 500 mètres d'altitude assez facilement. C'est les humains qui les ont poussés vers la haute montagne par leur activité. Et donc, il faut s'imaginer tous ces animaux-là, qui aujourd'hui se voient soit dans des eaux, soit ont complètement disparu, vivaient à Marseille, vivaient devant nous, ici.
Et tous ensemble, en plus.
Et tous ensemble. Alors, pas forcément tous ensemble tout le temps en même temps.
Oui, oui,
mais ils fréquentaient toutes les plaines, hein, tout ce qu'on a sous les yeux là. On peut s'imaginer tous ces animaux qui s'échangent, qui se déplacent, qui vont migrer. Le lion tapis quelque part, qui vont en chasser un ou deux. Et tout ça, qui vit en bonne harmonie avec les humains au milieu.
Bah oui, et justement, là, les humains, on en voit qui passent. Mais alors, moi, je les imaginais tout petits, les hommes préhistoriques, mais en fait, ils sont pas du tout tout petits.
Ah oui, on imagine souvent l'homme préhistorique tout petit, un peu comme le capitaine Caverne, il a une mauvaise peau de bête que j'étais sur l'épaule. Non, ce sont des gens qui sont très développés. Rien qu'à voir les dessins qu'ils ont faits, hein, c'est donc qu'ils sont super intelligents. On sait qu'ils avaient des vêtements qui étaient sûrement très bien cousus, très bien aménagés, et plutôt grands. On a une taille moyenne pour les hommes à l'époque qui est aux alentours du 1m80. Bien plus grand que moi, évidemment. Je sais pas du tout la stature d'un homme préhistorique, malheureusement. Et ce sont des gens qui étaient très très forts, très puissants. C'était des chasseurs, des collecteurs qui se déplaçaient beaucoup, qui marchaient sur des grandes distances, des centaines de kilomètres pour aller chasser des matières, pour aller ramasser du silex, pour aller chasser des animaux, pour se déplacer d'endroit en endroit.
Mais oui, là, c'est vrai qu'ils sont impressionnants comme ça. C'est vraiment des guerriers en fait.
C'est des chasseurs, ouais. Guerriers, j'aime pas trop parce que guerriers, t'as l'impression qu'ils se font la guerre entre eux et on n'est pas sûr qu'ils se faisaient la guerre comme ils n'étaient pas très nombreux. Plutôt des gens qui vivent en bonne intelligence et qui vont s'échanger des idées, des matières, des savoir-faire et du gène aussi, hein, qui vont se croiser entre eux, parce que c'est important de vivre en bonne intelligence, de vivre tous ensemble quand on est dans un climat qui n'est pas forcément accueillant, qui est un peu froid, qui est peut-être hostile. Et la guerre, c'est pas une fatalité, en fait. La guerre, c'est très récent. Non, ils vivaient plutôt bien entre eux.
Ça donne envie de rester là, hein, de rester à l'époque préhistorique. Moi, ça me va bien. C'est plutôt sympa ici.
C'est plutôt sympa. Il fait un peu froid quand même.
Il fait combien, là, par rapport à nous, aujourd'hui
On est en Provence, il faisait quand même meilleur que dans le reste de la France. Hein. Quand on est dans le bassin parisien, on pouvait avoir des températures très basses avec des moins 25 degrés en hiver, 12 degrés en été. Ici, la température était légèrement plus élevée grâce à la présence de la mer et au fait qu'on soit plus au sud. Mais oui, il faut imaginer quand même des hivers assez froids qui peuvent descendre à moins 15, moins 20 degrés.
Oui,
on ne connaît pas beaucoup ça sur Marseille aujourd'hui.
Et pourtant, il y avait des félins, il y a la fameuse panthère des cavernes, alors qu'il faisait si froid.
Et oui, parce qu'en fait, tous ces animaux sont parfaitement adaptés à leur climat froid. C'est aussi, on s'imagine, parce qu'on les voit aujourd'hui en Afrique, c'est pas tout à fait le même, hein. C'est un animal qui est légèrement différent. Aujourd'hui, il y a des panthères qui vivent dans des climats très froids. Du côté de la Chine, qu'on appelle la région du fleuve Amour, on a la panthère de l'amour, c'est un léopard qui vit là-bas, parfaitement adapté au froid. Et il y a son cousin qu'on appelle la panthère des neiges, aussi qui vit dans le Tibet, qui vit en Mongolie, dans les régions extrêmement froides de l'Asie centrale.
Et oui, c'est vrai. Bon, alors Gabriel, dis-nous aussi, toi, tu devais en ramener un, là, de tous les animaux qu'on voit de l'époque préhistorique, tu gardes lequel ?
Moi j'aime bien les félins, donc je prendrais le petit lion.
Ah oui.
Pour lui faire des caresses à la maison.
Moi je prendrais le pingouin, je crois.
Il est mignon le pingouin aussi, hein, c'est très très intéressant. Lui.
On va retourner dans notre machine à remonter le temps et puis on va repartir en arrière. Mais c'était une super visite, merci beaucoup Gabriel.
Bah, avec plaisir, merci à toi Ambre d'être venu avec nous aujourd'hui et d'avoir fait la visite de la grotte Cosquer. On espère qu'on pourra se revoir quand ce sera ouvert.
Dodo, dodo. Dormira bien vite.
Professeur, mais qu'est-ce que vous faites avec ce gros oiseau dans les bras? Et vous l'avez trouvé où?
C'est un dodo, ma petite. Un dodo. Je l'ai trouvé en remontant le temps. J'adore ce gros oiseau lent et glouton.
C'est vrai qu'il vous ressemble un peu.
Avant, il vivait dans l'océan Indien. Il a disparu depuis le 17e siècle. C'est fou le nombre d'animaux disparus qu'on retrouve en changeant d'époque.
Professeur, vous n'envisagez pas de le garder avec vous quand même?
Pourquoi pas? Je suis une excellente maman dodo.
Professeur, ce n'est pas du tout raisonnable. Laissez ce dodo avec sa famille. Allez, hop, on remonte dans la machine à voyager dans le temps.
Ah, zut alors! J'aime bien, moi, passer du temps avec les animaux disparus.
Allez donc faire un tour à la grotte Cosquer à Marseille. Elle ouvre ses portes en juin. Vous allez y voir tous les animaux disparus de l'époque préhistorique. Vous allez vous régaler.
Une super idée, ma petite. Un endroit formidable pour tous les petits aventuriers.
Toutes les infos, c'est sur www.grotte-cosquer.com. T'as plu ce nouvel épisode de Wild? Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Wild, le podcast animalier, est sur Facebook et sur Instagram. Si tu veux, tu peux nous envoyer tes messages ou tes questions sur les animaux au professeur Sapiens. Il sera ravi d'y répondre. Si ça se trouve, ta question sera même retenue pour un prochain épisode. À bientôt, nos petits aventuriers!